Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Votre radiographie du coronavirus est aujourd'hui, alors que le gouvernement doit annoncer tout à l'heure son plan de déconfinement, vous vous intéressez à la situation dans les pays asiatiques.
Et oui, vous avez certainement entendu ou lu ces derniers jours des articles qui parlent d'une remontée du nombre d'infections en Corée, en Chine, à Singapour ou au Japon, à tel point que ces pays qui sont cités comme modèles depuis le début de la crise et qui avaient commencé à déconfiner se remettent à fermer leurs écoles ou certains lieux publics pour éviter cette fameuse seconde vague. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la seconde vague? Ça a l'air a priori évident, mais ça ne l'est pas tant que ça sur le plan épidémiologique. Il s'agit d'une reprise du nombre de contaminations après une période de régression ou de stabilisation, certes. Mais à partir de quel niveau de recontamination peut-on parler d'une seconde vague? Eh bien, il n'a pas vraiment de réponse claire à cette question, mais il devrait s'agir a priori au moins d'une reprise d'une ampleur équivalente, au moins équivalente à la première. Dans l'épidémie de grippe espagnole en 1918, il y a bien eu une seconde vague, qui a été d'ailleurs nettement plus meurtrière que la première, mais elle était due à une mutation du virus qui en avait augmenté fortement la létalité, la faisant passer de 0,01 à 3, voire 5%. Pour les épidémies de SRAS ou de MERS, il n'y a pas eu de seconde vague, d'une part parce que les taux de contagiosité de ces deux premiers coronavirus n'étaient pas du tout les mêmes que celui du COV2, mais aussi parce que le seuil pandémique n'a jamais été atteint. La hausse du nombre de contaminations dans plusieurs pays d'Asie relève-t-elle des prémices d'une seconde vague? Pour l'heure, il est beaucoup trop tôt pour appliquer cette terminologie. Par ailleurs, les différentes stratégies de lutte contre le virus en Asie diffèrent assez largement de celles qui ont été utilisées en Europe.
Et cette différence de stratégie entre les pays asiatiques et la France, c'est ce qui fait toute la différence, Nicolas.
Et oui, de quoi parle-t-on exactement, Guillaume, quand on parle d'une reprise des contaminations? La Chine faisait état de 353 nouveaux cas le 17 avril contre 34 le 3. La Malaisie de 185 nouvelles contaminations le 19 avril contre seulement une vingtaine le 15 mars. Et le cas le plus flagrant, c'est celui de Singapour, qui a vu le nombre de nouveaux cas multiplié par 10, passant de 142 cas le 8 avril à 1426 le 20. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans chacun de ces pays? Comme vous pouvez l'imaginer, des situations très différentes. À Singapour, qui n'avait pas confiné sa population comme en France, mais choisi un contrôle strict aux frontières, couplé avec un traçage numérique des personnes infectées, les nouveaux foyers d'infection viennent essentiellement des travailleurs migrants qui sont originaires d'Asie du Sud et qui sont souvent entassés dans des dortoirs bondés. La cité-État a décidé, face à cette reprise importante du nombre de contaminations, de décréter un confinement général prolongé jusqu'au 1er juin. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une deuxième vague à proprement parler, mais d'une accélération de la première via des foyers épidémiques qui avaient échappé au contrôle des autorités. En Chine, la hausse du nombre de cas est principalement due au rapatriement de Chinois vivant à l'étranger, notamment à la frontière russe, où la ville d'Harbin a dû réimposer des mesures de contrôle dans certains quartiers face à l'influence de résidents de retour qui sont passés par la frontière terrestre, dont on sait qu'elle est beaucoup plus difficile à contrôler que les frontières aériennes. Face à ces cas de reprise épidémique, la Chine procède de la même façon qu'à Wuhan, c'est-à-dire fermeture et mise en quarantaine stricte de la ville ou de certains quartiers jusqu'à ce que le nombre de contagions chute à nouveau. Quant à la centaine de patients coréens testés à nouveau positif après avoir été déclaré guéri de la maladie, il y a peu de doute sur le fait qu'il ne s'agisse pas tant de résurgence virale, comme je vous l'expliquais dans une chronique précédente, que finalement d'une simple rechute due au fait que le virus n'avait pas totalement été éliminé du corps de ces malades. Toutes ces informations font dire à Antoine Bondas, qui est chercheur à la Fondation de Recherche Stratégique que nous avons interrogé, que ce risque de rechute est normal, qu'on va certainement le constater, d'autant plus avec un virus nouveau face auquel personne n'avait encore développé d'immunité, mais que pour autant aucune deuxième vague n'est arrivée pour le moment nulle part sur la planète. Si elle inquiète les virologues et les épidémiologistes en Europe et notamment en France, c'est que ces pays asiatiques, qui ont pour objectif final non pas de réduire la propagation du virus comme chez nous, mais bel et bien de l'éliminer totalement de leur territoire, eh bien eux peuvent s'appuyer sur leur expérience des épidémies respiratoires précédentes et d'une culture de l'hygiène et du respect des règles collectives qui ne sont strictement pas les mêmes chez nous. En France, le gouvernement saura-t-il trouver l'équilibre qui permet de maintenir le fameux R0, le taux de reproduction du virus, en dessous de 1, c'est-à-dire en dessous du seuil épidémique? Je vous rappelle que selon une étude de l'Institut Pasteur, les mesures de confinement leur aient fait passer chez nous de 3,3 à 0,1. 0,5. 0,5, ça nous laisse donc une petite marge de manœuvre, plus importante par exemple que celle dont disposent nos voisins allemands, dont les R0 seraient tout juste en dessous de 1 aux alentours de 0,8 et 0,9 et qui sont vraiment à la frontière de reprendre effectivement une flambée épidémique.